Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, RTL Soir du jeudi. C'est forcément RTL Soir qui garde une oreille et un œil sur la conférence de presse d'Olivier Véran. D'autant qu'on a besoin d'éclaircissement après que plusieurs pays européens, le Danemark, l'Islande, la Norvège, ont décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca après quelques cas de caillots sanguins. Même si ce soir, l'Agence européenne des médicaments se veut rassurante, on peut continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca car, dit-elle, ses avantages continuent de l'emporter sur ses risques. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
C'est évidemment un des sujets dont on va parler dans le journal avec vous.
Oui, parole notamment aux médecins généralistes, rassurant eux aussi ce soir. N'annulez pas vos rendez-vous, disent-ils. Vous les entendrez dans un instant. Dans ce journal également, la colère qui monte chez les professionnels du spectacle. Les 20 millions d'euros annoncés aujourd'hui ne suffisent pas, disent-ils. Et puis une voiture électrique à bas coût, c'est possible, Thomas. Christophe Bourreau a testé pour nous la toute nouvelle Dacia.
Et nous embarquerons avec lui. Nous sommes le 11 mars, c'est la journée des victimes du terrorisme. À 18h15, Laurent Nouniez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, sera l'invité exceptionnel d'RTL Soir pour faire le point sur l'état de la menace en France. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ce sera encore un vendredi bien agité.
Oui, avec un ciel de traîne sur la majeure partie du pays, donc entre nuages, éclaircies, averses et toujours beaucoup de vent. Mais le Nord et le Pas-de-Calais sont sortis de la vigilance orange. Les averses seront plus fréquentes le matin sur les bords de Manche, en journée entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Ardennes. Et puis il va neiger sur tous les reliefs. Les seules régions à l'écart de ce mauvais temps, ce sera dans le sud-est et des températures qui seront comprises entre 9 et 20 degrés demain.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Nouveau vent de panique donc ce soir autour du vaccin AstraZeneca. Trois pays, le Danemark, la Norvège et l'Islande, ont décidé de suspendre la vaccination. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
On se pose plein de questions après ces annonces. D'abord, quel est le problème?
Alors, les autorités danoises qui l'ont suspendu en premier parlent de principes de précaution. Elles ont recensé des cas de thrombose, des caillots de sang chez des personnes vaccinées avec l'AstraZeneca. Elles ne disent pas combien de cas, mais une personne serait décédée et donc elles veulent enquêter, voir s'il peut y avoir un lien avec la vaccination, lien qui pour l'instant n'est absolument pas prouvé. Pardon. L'agence de santé danoise insiste sur le fait qu'elle ne compte pas renoncer à ce vaccin, mais par précaution, elle le suspend 2 semaines. Alors de son côté, l'agence européenne du médicament se montre, elle, ce soir, rassurante. Elle a déjà travaillé sur les caillots sanguins. Sur 5 millions de personnes vaccinées en Europe avec ce vaccin, il y a eu 30 cas sans lien prouvé. C'est le taux normal de thrombose dans la population européenne. Et le bénéfice est tellement plus élevé que le risque que l'agence européenne et les autorités françaises se rangent derrière cette décision. Pas question de le suspendre. Elle recommande de continuer à vacciner.
Alors le vaccin AstraZeneca, c'est le vaccin, on le rappelle, hein, qu'utilisent les médecins généralistes et bientôt les pharmaciens.
Mais justement, qu'est-ce qu'on fait, Amandine, si on a rendez-vous demain ou dans les prochains jours?
Eh bien surtout, on n'annule pas, c'est ce que dit ce soir le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français.
Écoutez. Pas de panique par rapport à cette décision d'une très grande précaution. Il n'y a aucun lien établi et affirmé entre ces problèmes de thromboembolie et la vaccination AstraZeneca. On a quand même, en Écosse, 1 million de personnes vaccinées, les Anglais à 20 millions, et quand on regarde les effets secondaires, ils sont tout à fait modérés et très très rares. Je reçois un patient demain qui veut se faire vacciner avec un vaccin AstraZeneca, je lui dis, c'est une très bonne chose, allez-y, et j'appelle tous les Français à le faire, tous les soignants, bien sûr, à le faire le plus rapidement possible.
Allez-y, dit le docteur Jean-Paul Ortiz au micro RTL d'Odile Pouget. Virginie, je reviens vers vous. On a entendu ce médecin rassurant, c'est le cas aussi, vous l'avez dit, de l'Agence européenne du médicament. Il faut quand même reconnaître que ça tombe mal, toute cette histoire.
Et oui, car l'AstraZeneca avait mauvaise presse au départ. On ne savait pas s'il était efficace sur les plus âgés. Finalement, il l'est. Il y avait les effets secondaires. En fait, il y en a plus avec le Pfizer. La confiance commençait à revenir. Alors, l'AstraZeneca est un pilier de la campagne de vaccination en France. On attend d'ici à la fin juin, 17 millions de doses. C'est un quart des vaccins destinés à la France. Alors heureusement, il y a une bonne nouvelle dans la journée. Le feu vert de l'Europe a un quatrième vaccin, le Janssen. Une seule injection suffit. 8 millions de doses devraient être livrées à la France en 3 mois.
Le Janssen, c'est celui qu'on appelle aussi le Johnson & Johnson, c'est ça?
C'est le laboratoire Johnson & Johnson et la marque Janssen.
Voilà qui est clair. Merci beaucoup à vous, Virginie Garin. Et pendant ce temps-là, le nombre de patients hospitalisés en réa continue à augmenter dans un certain nombre de régions, y compris Amandine, celle où a été instauré un confinement le week-end.
Oui, Franck Ranson s'est rendu pour RTL à la polyclinique de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Reportage.
Oui, au sein de l'unité Covid, toutes les chambres sont occupées, parfois avec plusieurs malades. Les soignants, qui ont du mal à cacher une certaine fatigue, ne voient guère d'amélioration. Marion Mailleux, l'une des aides-soignantes.
Depuis qu'on est confiné le week-end, surtout à Dunkerque, il n'y a aucun changement. Au contraire, on est passé de 14 lits à 30, là. Enfin, ça augmente. Dès qu'il y a un patient qui sort, en général, on n'attend même pas la fin de la journée avant qu'il y ait déjà un autre patient qui soit rentré. Sachant qu'en plus, on a de plus en plus de collègues qui sont contaminés, donc de moins en moins de personnel.
L'établissement spécialisé en gériatrie travaille en collaboration avec l'hôpital de Dunkerque, également saturé, une organisation territoriale fragile, selon le docteur Antoine Bourgeois, responsable de service.
Tous les patients âgés du territoire qui arrivent ici, on n'a jamais connu ça en ce moment. On est à 25% de décès, c'est énorme. C'est ça le plus dur en fait à gérer. Bon là, en ce moment, on ne se prend plus de patients mutuellement parce que tout le monde est surbooké. Hier, par exemple, j'ai voulu transférer un patient pour la réanimation. J'ai appelé Boulogne, Calais, Dunkerque, Lille. Il a atterri à Seclin parce qu'il n'y avait pas de place nulle part ailleurs pour prendre.
À Grande-Synthe, l'une des rares lueurs d'espoir, la vaccination se poursuit à grande échelle. Plus de 400 doses ont été livrées aujourd'hui.
Reportage signé Franck Hanson pour RTL. Sur le front économique, le ministère de la Culture annonce 20 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide au secteur. 20 millions qui s'ajoutent aux 30 déjà débloqués. Trop peu, beaucoup trop peu, dit ce soir la CGT Spectacle.
C'est une aumône. Si on veut un vrai plan de relance pour l'emploi dans la culture, il faut des sommes 10 à 20 fois supérieures. On n'est pas les seuls à le dire. On nous a lâché des mesurettes. C'est indigne. On nous traite comme des mendiants. Nous demandons une ouverture raisonnée. Nous demandons un accompagnement à la reprise, un accompagnement financier. Nous demandons la garantie de tous les droits sociaux, l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche qui doit aller au-delà du 31 août. Sinon, on aura des gens qui vont se retrouver sans aucun revenu au 1er septembre 2021. Nous sommes déterminés à continuer et à amplifier le mouvement d'occupation des théâtres, des lieux culturels, parce que c'est le seul moyen de se faire entendre.
Denis Gravouille, le secrétaire général de la CGT Spectacle, avec Monique Younes.
Emmanuel Macron, lui, était aujourd'hui à Dammartin-en-Goële, visite à Michel Catalano à l'occasion de la journée d'hommage aux victimes du terrorisme.
Michel Catalano, vous vous souvenez, c'est cet imprimeur pris en otage par les frères Kouachi lors de leur cavale en 2015. Le chef de l'État a salué son courage. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait déposé une gerbe aux Invalides devant la statue Parole Portée, une statue qui représente une femme décapitée et dédiée à tous ceux tués dans des attentats.
Et dans quelques minutes, on se demandera si la France est toujours une cible. On posera la question à Laurent Nunez, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il sera l'invité d'RTL Soir.
À Argenteuil, une marche blanche aura lieu dimanche. Hommage à Alisha, cette adolescente rouée de coups et jetée dans la Seine par deux de ses camarades, un garçon et une fille, qui ont été mis en examen pour assassinat et incarcérés. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
On est tous frappés par leur âge, à peine 15 ans. Comment ça se passe une détention si jeune pour des faits aussi graves?
Alors environ 3500 mineurs sont placés en détention chaque année, souvent pour des périodes courtes, quelques semaines ou quelques mois. Actuellement, ils sont 765 derrière les barreaux. Pour les deux adolescents d'Argenteuil, cela risque d'être beaucoup plus long, d'une part pour les nécessités de l'enquête et d'autre part, bien sûr, parce que les charges sont criminelles, meurtre avec préméditation. Dans ce cas-là, la durée de détention provisoire est d'un an renouvelable. Donc chacun d'eux a rejoint un quartier pour mineurs, d'une maison d'arrêt francilienne. Ils disposent d'une cellule individuelle, c'est la règle pour les moins de 18 ans, et ils devraient bénéficier d'un encadrement dédié. Les quartiers mineurs comptent sur le papier un éducateur pour 5 pensionnaires, en plus des surveillants, bien sûr. Ils sont notamment chargés du suivi éducatif. Tout est fait pour que les jeunes détenus poursuivent leurs études et passent notamment leurs examens, notamment s'ils étaient en train d'en préparer avant leur arrivée. L'Observatoire international des prisons souligne qu'en pratique, les moyens humains ne sont pas toujours là et que les avocats doivent se battre pour faire respecter ces droits.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Petite pause dans un instant. C'est maintenant le prince William qui monte au créneau pour défendre la famille royale. Le scandale n'en finit pas là-bas.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et après l'interview choc de Meghan Markle et du prince Harry, c'est le frère d'Harry, William, qui sort de son silence.
En visite aujourd'hui dans une école de l'Est de Londres, le fils aîné du prince Charles a été assailli par les questions. La famille royale est-elle raciste? Lui a ainsi demandé un journaliste.
Can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
Non, certainement pas. Nous ne sommes pas du tout une famille raciste, assure le prince William, qui précise qu'il n'a pas encore parlé à son frère depuis l'interview, mais qu'il compte bien le faire. Et puis au Japon, les sirènes de tout le pays ont retenti. Tout à l'heure à 14h46, c'est l'heure à laquelle il y a 10 ans, un terrible séisme frappait la région de Fukushima. Le tremblement de terre puis le tsunami ont, on le rappelle, fait près de 18 500 morts et disparus.
Les obsèques aujourd'hui à Paris de Patrick Dupont, décédé vendredi dernier.
Une cérémonie à l'église Saint-Roch en présence de nombreuses personnalités. La danseuse Marie-Claude Pietragala, Nicoletta, mais aussi Francis Lalanne, Philippe Candeloro ou encore Brigitte Fossé.
C'était l'âme et la danse et dans la vie une grande simplicité, une grande spontanéité. Je crois qu'il aimait les gens tels qu'ils étaient. Je crois qu'il aimait la poésie aussi, mais la poésie c'est la vie. Et c'est ce qui rayonnait de lui et dans son art. Et voilà, je voudrais simplement le remercier. Et remercier sa maman aussi, qui l'a accompagnée jusqu'à maintenant. Parce que je ne crois pas qu'on puisse être un artiste comme celui-là sans avoir eu une mère exceptionnelle. Bravo.
L'hommage de Brigitte Fossé au micro RTL de Julien Fautra, Patrick Dupont, hein, avait, on le rappelle, 61 ans.
Allez, heureusement qu'on a la bonne nouvelle à la fin du journal. Hein.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et voiture électrique, Thomas, ne rime plus forcément avec somme astronomique.
Peut-être
pas mal, Marie.
Hein. Ouais,
oui.
Non,
hein. Dacia a présenté aujourd'hui sa Dacia Spring, une petite citadine électrique. Bonsoir Christophe Bourroux.
Bonsoir.
Vous l'avez testée pour nous, alors est-ce que ça vaut le coup?
Ah bah oui, car à 12 400 euros prime déduite, la Spring casse carrément les prix. C'est près de 8 000 euros d'écart avec les concurrentes et encore les moins chères du marché. Et à ce tarif, elle est vraiment convaincante, avec d'abord son style façon SUV, puis son équipement, alors certes pas de superflu avec beaucoup de plastique, mais cette citadine de la taille d'une Twingo ne fait pas l'impasse sur la sécurité avec entre autres un limiteur de vitesse et 6 airbags. Côté autonomie, 230 km sur route, donc insuffisant pour un Paris-Marseille. Mmh. En revanche, c'est plus en ville, selon Denis Levotte, il est le directeur général de Dacia.
Alors l'autonomie urbaine de cette voiture, c'est 305 km, ce qui correspond vraiment à l'usage de nos clients, puisque l'usage urbain des voitures en général en France, c'est plutôt 30 km par jour.
Alors elle se branche partout en 1h30 sur une borne rapide et comme c'est une électrique, elle est dynamique, mais pas de risque de PV sur autoroute, vitesse maxi 125 km/h.
Très bien.
Ça vous va. Fabriqué en Chine, on pourra commander
parce que sinon Amandine sur l'autoroute,
là, vous verriez sur l'autoroute
125. Fabriqué en Chine, on pourra commander cette Spring alors dès le printemps pour une arrivée en septembre.
Ah, en septembre, 12 000, combien vous dites?
12 400.
Prime déduite,
ouais.
Effectivement, c'est très compétitif. Merci beaucoup à vous, Christophe, et merci à vous, Amandine. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Quel est l'état donc de la menace terroriste en France? Laurent Nouniez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est l'invité exceptionnel d'RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
En cette journée européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, Laurent Nouniez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Laurent Nouniez.
Bonsoir.
Le niveau de Vigipirate est descendu d'un cran dans le pays. Nous étions en urgence attentat et nous sommes redescendus au niveau sécurité renforcée, risque attentat. Alors tout ça reste assez abscon quand on n'a pas le nez dans toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous qualifieriez la menace terroriste en France aujourd'hui?
La menace terroriste aujourd'hui est évidemment toujours très élevée, avec cette menace endogène, on l'a vu avec les 7 dernières attaques, avec des individus présents sur le territoire national qui cèdent à la propagande de l'EI, d'Al-Qaïda, qui passent à l'action avec des moyens rudimentaires. Et puis on est toujours très attentif à la menace exogène, c'est-à-dire cette menace qui peut être une menace projetée. Et
alors
donc effectivement, la menace reste très élevée.
Très élevée, mais elle a baissé ou elle n'a pas baissé depuis cet automne et depuis...
Le changement de posture Vigipirate, c'est une adaptation des dispositifs, notamment des dispositifs militaires Sentinelle, qui sont plus mobiles, plus réactifs, mais le dispositif reste d'un niveau très élevé, il faut rassurer les Français. Enfin,
donc il n'y a pas moins de vigilance.
On n'y a absolument pas moins de vigilance. Les services de renseignement sont tous sur le pont, les services de police judiciaire, évidemment, toutes les forces de sécurité publique qui assurent la protection de la voie publique et des militaires de la Défense nationale, évidemment, du ministère des Armées, du dispositif Sentinelle.
Y a-t-il eu des attentats déjoués dernièrement en France, Laurent Nouniez?
Depuis 2017, nous avons déjoué 33 attentats, oui. ce qui est énorme, hein, compte tenu d'un dispositif.
Et depuis le début de l'année, depuis Nice.
On a eu un dispositif renforcé en effectif des services de renseignement, en moyens budgétaires, en moyens juridiques. Donc les services sont outillés, sont musclés pour déjouer les attentats. 33 depuis 2017 et 2 attentats déjoués en 2020. Mais depuis le début de l'année, il n'y a pas eu d'attentats déjoués, c'est-à-dire d'attaques déjouées, mais un travail efficace, effectif des services de renseignement qui suivent beaucoup d'individus porteurs de menaces et qui, évidemment, s'ils devaient passer à l'action, interviendraient immédiatement.
Vous avez évoqué le cas d'un mineur déféré le 29 octobre dernier. Où en était-il dans son processus? C'est quelqu'un qui était sur le point de passer à l'acte?
C'est quelqu'un qui fomentait un projet, qui avait recherché un certain nombre de cibles, qui avait fait des recherches sur la façon de s'armer, de constituer des explosifs. Donc,
quel genre de cible il visait?
Il visait des cibles de nature confessionnelle ou des locaux de médias. Voilà. Le projet nous a semblé suffisamment avancé, enfin, il a semblé suffisamment avancé à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et au parquet, au procureur antiterror, pour le faire interpeller, pour éviter un passage à l'acte.
Il était dans quelle région, à Paris, région parisienne ?
Je ne peux pas vous en dire plus, vous comprendrez, il y a des investigations judiciaires, et donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus,
mais c'est effectivement la dernière attaque des joueurs. Et il était seul ou il y a des complices interpellés ?
C'était un individu seul.
Un individu.
Ce qui est le cas de 17 dernières attaques que nous avons subies notre territoire, c'était des individus isolés.
Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui sont susceptibles de passer à l'acte sur le territoire ? Vous parliez de cette menace endogène. Vous avez une idée, un ordre de grandeur ou pas ?
On a un ordre de grandeur des individus qui sont suivis pour radicalisation violente. C'est environ 8000 personnes, chiffre que rappelle le ministre de l'Intérieur très régulièrement, les personnes qui sont suivies au FESPRT. Donc ce sont des individus susceptibles de basculer, mais ils ne sont pas forcément porteurs de menaces. Et c'est toute la difficulté du travail des services de renseignement, évidemment, d'identifier ceux qui, à un moment ou un autre, peuvent passer à l'action. C'est ça le travail des services de renseignement. Et quand c'est le cas, ils sont judiciarisés, interpellés.
Si je puis dire pour l'instant, vous savez combien il y en a qui sont dans leur coin et qui peut-être du jour au lendemain prennent un couteau ou passent à l'acte ?
Ce sont des individus qui sont surveillés. Et encore une fois, le but des services de renseignement, c'est de détecter suffisamment en amont ces risques de passage à l'acte, de les entraver, de les judiciariser. Et donc, ils sont ensuite interpellés.
Donc, 8000 à peu près ?
On a 8000 individus qui sont suivis pour radicalisation violente. J'insiste. Voilà.
Oui, c'est pour ça que vous
ne veut pas dire qu'ils sont porteurs de menaces à l'instant, au moment où on se parle. Mais ce sont des individus qui, à un moment ou un autre, ont pu tenir des propos d'apologie du terrorisme, sont dans un relationnel d'individus qui peuvent être pro-djihad ou qui sont très engagés. Donc, ils sont suivis, j'insiste bien là-dessus. Tous ces individus sont suivis et les services de renseignement ont pour mission de détecter le passage à l'acte et c'est ce qu'ils ont fait en déjouant 33 attaques depuis 2017.
Et quels sont les lieux particulièrement ciblés ? Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière sur les écoles, par exemple, aujourd'hui ?
Vous savez, les dernières attaques que nous avons subies, celles que nous avons déjouées, quand on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays européens, les cibles des attaques terroristes, elles sont multiples. Elles sont malheureusement multiples. Ça peut être les forces de l'ordre, ça peut être évidemment des établissements scolaires, des lieux confessionnels, des lieux de grands rassemblements de personnes. Voilà. Ces lieux sont multiples et nous travaillons tout azimut, à la fois en renseignement pour détecter ces menaces en amont et bien sûr par des dispositifs de protection mobile de voies publiques pour éviter ces attaques.
Et le risque d'une opération organisée de l'extérieur, comme ce fut le cas le 13 novembre 2015 par exemple, est-ce qu'il existe encore vraiment en France aujourd'hui ?
C'est une menace que nous jugeons moins probable puisque l'État islamique a été défait et ces attaques provenaient de l'État islamique, notamment si on fait référence évidemment aux terribles attaques de novembre 2015. Cette menace nous semble moins probable, mais nous continuons à la prendre très au sérieux quand nous voyons que l'État islamique, dans la clandestinité, se reconstitue en Syrie, aussi en pour partie en Irak.
C'est donc, pas fini l'État islamique aujourd'hui ?
L'État islamique continue. L'État islamique dans d'autres territoires que le Levant continue. Il est présent au Sahel, d'où l'engagement évidemment de la France et de la coalition sur ce théâtre. Donc l'État islamique a toujours cette velléité de nous frapper au cœur et donc nous demeurons évidemment très attentifs. Et puis il y a des combattants djihadistes qui étaient partis en Syrie et en Irak, qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Je pense à la zone des Balkans, je pense à certains pays du Maghreb et qui évidemment retiennent toute notre attention.
Donc la menace existe toujours, même si aujourd'hui elle est moins prégnante que la
menace projetée est moins probable, elle est moins prégnante, mais les services de renseignement demeurent toujours très attentifs à cette menace.
Laurent Nounias, l'assassinat de Samuel Paty a-t-il été commandité de l'extérieur ?
Nous n'avons pas d'informations en l'état des investigations judiciaires en ce sens, d'une commandite qui vienne de l'extérieur. Nous sommes sur un scénario d'un profil endogène qui passe à l'action sur le territoire national, qui s'est radicalisé en assez peu de temps sur le territoire national. La particularité de cette attaque, vous le savez, je veux le rappeler ici, c'est que la cible qu'il va choisir, le professeur Samuel Paty, est une cible que finalement l'islam politique lui a désignée en créant cette polémique autour de son enseignement sur la liberté d'expression.
On dit aussi, Laurent Nounias, que ce terroriste qui a assassiné Samuel Paty avait été en contact avec au moins un correspondant en Syrie. Vous pouvez nous le confirmer, ça ou pas ? Il a échangé ? Il y a eu des échanges ?
Alors, ce sont des éléments de procédure judiciaire, mais je peux vous confirmer qu'il y a eu effectivement des contacts qui n'étaient pas des contacts de ce que l'on en sait, qui n'étaient pas des contacts opérationnels, il n'y avait pas de commandite. Les investigations judiciaires se poursuivent, mais il faut que vos auditeurs comprennent bien que nous suivons les individus qui sont signalés, qui sont détectés, et nous avons des techniques pour pouvoir évidemment suivre leur communication, mais encore faut-il qu'ils soient connu. Et cet individu, dont nous savons aujourd'hui que la famille craignait sa radicalisation, n'a jamais procédé à un signalement aux forces de police.
Donc, il était difficile de le détecter. Vous ne pouviez pas repérer ces échanges ? Il n'y a pas de raté là-dessus, de ce point de vue-là ?
Je on verra ce que disent les investigations judiciaires, mais de mon point de vue, il n'y a pas de raté. Et voilà, c'est un individu endogène.
Indétectable, ces
il n'y a pas d'élément qui laisse à penser que cette attaque était détectable. Voilà, c'est typiquement l'attaque endogène, un individu qui se radicalise en finalement très très peu de temps et qui passe à l'action sur le territoire national. Mais j'insiste, pour répondre précisément à votre question, à ce stade des investigations judiciaires, les contacts qu'il a pu avoir avec des individus sur zone n'étaient pas des contacts opérationnels.
Combien de personnes il a échangé, combien de personnes, vous le savez ça ou pas aujourd'hui?
Écoutez, quelques fois seulement avec quelques personnes, mais vraiment je ne peux pas vous en dire plus, il y a des investigations judiciaires en cours et encore une fois,
longtemps avant son passage à l'acte, c'est dans quel calendrier?
Ce n'étaient pas des contacts opérationnels, de la même façon qu'il a échangé, il a publié sur les réseaux sociaux un certain nombre de tweets qui n'étaient pas par eux-mêmes porteurs de menaces, puisque un certain nombre d'entre eux avaient été signalé à Pharos, il n'avait pas été considéré qu'il y avait une menace. Mais ce que je veux rappeler ici, pour vos auditeurs, c'est que cet individu a choisi sa cible par rapport à un message de l'islam politique qui a désigné M. Paty comme étant un voyou et une personne finalement qu'il fallait abattre.
Je vous pose juste la question, ces échanges avec des correspondants donc en Syrie, semble-t-il, c'était combien de temps avant son passage à l'acte?
Écoutez, les échanges qu'il a pu avoir avec des individus, la procédure judiciaire est en cours. Très honnêtement, vous le savez, les médias s'en sont fait l'écho. Il a envoyé une photo peu de temps après. Mais voilà, il y a une procédure judiciaire en cours. Je veux vraiment insister sur une chose. Ce n'était pas des contacts à caractère opérationnel à ce stade des investigations.
C'est clair, c'est très clair. Il reste environ 160 djihadistes français sur zone à l'extérieur. Il y a aussi des enfants détenus dans des camps du Kurdistan irakien. Il y en a combien, vous le savez ou pas aujourd'hui, des enfants français?
Écoutez, nous savons qu'il y a 250 adultes, femmes, hommes et femmes qui sont retenus ou détenus dans les camps ou emprisonnés. Pour les combattants, ils sont emprisonnés. Et donc, il y a avec ces femmes un certain nombre d'enfants.
Mais combien ?
C'est de l'ordre de 200 à 300 enfants donc, qui sont présents sur zone avec leur mère pour la plupart. Et pour certains orphelins, comme vous le savez, il y a eu des opérations de rapatriement pour des motifs humanitaires, pour des orphelins ou pour des mineurs isolés.
Pour les autres, il y a un sénateur communiste et un député de droite qui ont demandé ensemble le retour de ces enfants en France, ceux qui sont encore là-bas avec leur mère. Est-ce que vous allez les faire revenir ?
Tu sais, ces enfants sont avec leur mère, leur mère, en se rendant sur zone, se sont rendus coupables de crimes graves.
Mais les enfants sont coupables de rien.
Les adultes ne pouvaient pas ignorer sur quel théâtre ils se rendaient. Et donc, ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, se sont rendus coupables d'exactions, et donc ils doivent être jugés.
Mais les enfants doivent s'assumer pour les actes de leurs parents ?
Les enfants sont avec leurs parents, ils ne sont pas séparés des parents, et donc les enfants ne seront évidemment pas jugés, mais pour l'instant, ils sont évidemment avec leurs parents.
Donc il n'est pas prévu de les faire revenir en France ?
Il n'est pas prévu, évidemment, de les faire revenir en France. La doctrine française n'a évidemment pas changé, mais j'insiste évidemment sur un point important. D'abord, d'une part, il y a eu des rapatriements d'enfants orphelins et de mineurs isolés, auxquels il a été procédé. Et puis, deuxièmement, nous avons des combattants djihadistes qui ont pu revenir, près de 300 déjà, depuis quelques années, qui passaient en Turquie, qui ont été interpellés, qui sont revenus avec leurs enfants, qui ont tous été pris en charge par l'assistance éducative sous main de justice. Et les parents étaient évidemment immédiatement judiciarisés.
Encore deux questions rapidement, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des départs de Français vers la Syrie, des jeunes qui partent vers l'Irak, la Syrie? Est-ce qu'il y en a encore?
Il n'y a plus de départ, c'est-à-dire que ça devient très compliqué maintenant. Il y a un dispositif de contrôle qui empêche évidemment tout départ. Et puis, il y a encore quelques personnes qui peuvent avoir des velléités, mais généralement, ces velléités sont détectées et les personnes sont entravées.
Dernière question, est-ce qu'il existe une menace particulière en France qui vise les musulmans en France, qui vise les mosquées? Est-ce que ça aussi, ça existe?
Il peut y avoir effectivement des... Regardez, nous avons déjoué 5 attaques terroristes d'ultra-droite. Oui. J'ai parlé des attentats terroristes sunnites islamistes, mais nous avons depuis 2017 déjoué 5 attaques d'ultra-droite. Et pour certains de ces groupes, il y avait, dans leur intention, après notamment un attentat terroriste, la volonté de cibler des cibles ou des intérêts musulmans. Et ces groupes ont été évidemment entravés. Nous sommes effectivement et évidemment attentifs à ce type
Cette menace existe aussi dans le pays.
Cette menace existe aussi dans le pays, il ne faut pas la nier, mais les services de renseignement visent à prévenir toutes les menaces, et celle-ci en fait partie, et il y a un engagement très fort de leur part de ce point de vue.
Merci beaucoup Laurent Nunez d'être venu ce soir. Merci pour ces éclaircissements. Merci à vous. À suivre, l'œil de Philippe Cavrivien. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Et donc, comment ça va le moral, vous ?
Eh ben, écoutez, super. Oh, ben, ça va. On a parlé terrorisme. La France commence sa 8e semaine de couvre-feu. À l'hôpital, les réas sont au bord de la saturation. On va bientôt passer les 100 000 morts. Cette semaine, on a réouvert le débat sur l'euthanasie. Voilà. Sinon, ça va, vous ? Non, comme dirait la reine Elisabeth, tout n'est pas noir. Il y a aussi des bonnes nouvelles. On va en causer, il y a des bonnes nouvelles
juste
qui arrivent.
Juste après le rappel des titres, et ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une ce soir, ce nouveau point sanitaire d'Olivier Véran. La situation reste tendue et inquiétante, dit le ministre de la Santé. On a dépassé ce soir les 4000 patients en réanimation. Virginie Garin, les transferts entre régions vont s'accélérer.
Oui, situation inquiétante dans trois régions surtout. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, PACA. Donc effectivement, en Ile-de-France, le ministre parle de seuil critique. Dans 15 jours, un patient toutes les 12 minutes entre en réa pour cause de Covid. Vide en Ile-de-France, donc des dizaines voire des centaines de patients pourraient être transférés vers d'autres régions. En attendant, il faut vacciner. Olivier Véran parle d'un record aujourd'hui, 286 000 vaccinations en 24 heures.
Et quant au vaccin AstraZeneca, suspendu dans trois pays, le Danemark, la Norvège et l'Islande, le ministre se veut rassurant. À ce stade, dit-il, ni la France ni l'Europe ne considèrent qu'il y a un risque. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination. Fin de citation.
Merci Amandine. La météo pour demain, c'est pas joli. Hein.
Non, c'est vrai, on a encore un ciel changeant, hein, Thomas, avec des périodes d'éclaircies.
Mais il change
nuages.
Dans le mauvais sens en ce moment,
oui,
il n'arrête pas de changer de pire en pire.
C'est ce qu'on appelle un ciel de
traîne. Les giboulées, non oui. C'est pas ça les giboulées de Mars ?
Alors, les giboulées, c'est quand on a une averse.
Je crois qu'elle vous piquer votre job.
Je me tais. Non, mais je vous explique. Alors, un ciel de traîne, c'est alternance de nuages, d'éclaircies avec des averses, voilà, ce qui nous attend demain avec encore beaucoup de vent sur les trois quarts du pays, des averses plus fréquentes le matin près de la Manche. Dans la journée, entre les pays de la Loire et les Ardennes, on a même le retour de la neige demain en montagne. Et seul le sud-est, finalement, sera épargné, profitera du beau temps. Les températures maximales seront comprises entre 9 et 20 degrés.
Merci Peggy. Jeudi, c'est comme mardi. C'est Fifi.
C'est ça.
Philippe Cavrivière, l'œil de Philippe. Et vous allez donc nous parler de bonnes nouvelles. Et parmi elles, il y a la victoire d'hier, quand même, il faut bien le dire, de Roger Federer en huitième de finale au tournoi de Doha.
C'est ça, Thomas. Vous êtes accroché, vous avez mis votre ceinture parce que je vais vous parler du retour de Federer.
Je m'accroche.
Roger Federer, la ligne Renault du tennis, a réussi son retour. Enfin, il a réussi un retour de revers à un moment donné. Après, il en a raté un paquet, hein, des services, des passings, c'est simple. On aurait dit Richard Gasquet. Le match s'est bien passé. Bon, ils avaient remplacé les ramasseurs par des infirmières. Roger avait reçu son petit vaccin Pfizer le matin même. Il avait mangé sa pomme-pote énergétique. Il a mis son short confiance avec les petits élastiques là.
Soyons honnêtes,
Nelson Montfort me le confiait encore hier.
Oui, enfin, c'est plus Daniel Evans qui a perdu que Roger Federer qui a gagné.
Même Nelson.
Nelson Montfort.
Hein. Oh, regarde la tête de Thomas. Tu fais des vannes sur sa femme, ses enfants, ses parents. Rien à foutre. Tu touches à Federer, t'as une fatwa au cul. Ou à Goldman, ou à Jean-Jacques, ça fait ça avec deux personnes. Bref, à 39 ans, Roger Federer reprend la compétition. Il y a donc une place à l'EHPAD qui se libère. Attention, je ne dis pas de mal de Roger. Il peut tout à fait battre Nadal et Djoko. Mais pas au tennis, au backgammon. Alors, au tennis, il peut battre René Lacoste.
Ouais.
En plus, j'ai regardé le match de Federer et j'ai aimé. Ça m'a rappelé le dernier concert d'Aznavour.
Oh.
C'était plus émouvant que spectaculaire. Non, c'est vrai, on regarde Roger comme on regarde du patinage, en se demandant si le gars va rester debout. C'était ma dernière chronique. Je suis licencié.
On va quand même au bout, pas, je sais pas. On va rester dans le sport, on va parler foot. Match nul entre le PSG et le Barça, mais les Parisiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions hier soir.
Saluons surtout le schéma tactique génial. Alors, c'est pas du 4-4-2, c'est pas du 4-4-3. C'est encore plus malin que ça. On a vendu au Barça trois joueurs français qui ne touchent pas un caramel. Dembélé, Umtiti et Griezmann.
Oh non, et Dembélé ne pouvait pas dire ça.
Alors, il a marqué hier ? Non. Bon, alors, c'est la tactique du cheval de Troie malade, en fait. C'est malin. Tu introduis un ou plusieurs éléments nuls chez l'adversaire. Alors, c'est exactement ce qu'a fait Europe 1 en envoyant Thomas Soto et moi sur RTL. On est en train de couler le bateau de l'intérieur.
Mais non, c'est pas tout malheureux.
Bon, Arnaud Philippe. Lagardère, tout se passe comme prévu. Stop. Le plan se passe à merveille. Stop.
Nicolas de Taverneau, je t'envoie le numéro de Philippe Cavrivière tout de suite. Bon, on va parler politique avec ce nouveau point presse dont nous parlait Amandine de 18h, mené cette fois par Olivier Véran. Jean Castex, il a passé son tour.
Alors, pour les fans de Jean Castex, ils sont nombreux. On vous a fait un petit best-of de ses meilleurs points presse de 18h. Tout de suite, les petites annonces de Jean Castex.
Ben, bonsoir, c'est Monsieur Castex. C'est pour dire rien du tout. Un rendez-vous jeudi à 18h. Pour dire encore rien du tout.
Bah, voilà. C'est plus drôle c'est quand lycée, c'est lycée. Bah, oui, ouais, c'est cadeau. Ouais. Mais attends, il y a du guest dans la chronique, attention.
Ça alors. Nous coûtait une blinde encore, ça.
Bon, alors en résumé, l'Île-de-France, on touche à rien. Nous, on est le mauvais élève qui fout le bordel en classe, mais qui n'est jamais renvoyé. Dunkerque a reconfiné 3 semaines, bon. Ils ont l'habitude de morfler, Dunkerque. De mémoire, il n'y a pas eu d'âge d'or du Nord-Pas-de-Calais. Peut-être à la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, ils ont appelé ça les Deux Glorieuses là-bas. Et puis depuis, plus rien.
Voilà. Bon, on reconfine aussi à Nice, sur le littoral. Ouais. Hein. Le littoral, c'est 90% de la population. L'arrière-pays étant nettement moins peuplé.
Oui, Thomas, dans l'arrière-pays, il y a quoi ? Il y a 30 chèvres et 4 bergers. Donc pas de risque de transmission de maladie, à part une petite MST par-ci, par-là. Si, il y a un berger qui est un peu trop câlin avec son personnel. D'ailleurs, c'est tout le problème du consentement quand il y a un lien de subordination dans le travail. Je vous invite à relire La chef de Monsieur Seguin, c'est une histoire d'amour en fait. Hein. Voilà, voyons, on ne sait pas si elle dit oui ou non. Bon, c'est le problème du consentement.
Politique encore, si on peut dire. Ce soir, Marine Le Pen sera sur BFM TV. Elle a proposé un contre-référendum sur la protection du climat. Et dans ce contre-référendum, elle pose 15 questions écologistes aux Français.
Qu'est-ce qui lui prend à notre Marine de causer écologie d'un coup ? Elle aurait eu une petite aventure avec le beau Hugo Clément, le ken du tofu. Alors, cela dit, elle avait déjà sorti un remix écologie et immigration. On l'écoute.
Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui.
Bim, punchline, prête pour le Marrakech du rire.
Je n'en souvenais plus de
celle-là. Sa comique préférée, c'est Blanche Gardin, n'est-ce pas ? Alors, un mot sérieux sur les éoliennes.
Vous faites vachement bien,
Jean-Marie. Oui, Thomas. Alors, les éoliennes, c'est très sérieux. Elles sont non polluantes, mais vous savez que ces couillons d'oiseaux foncent direct dedans. Oui. Et qu'à la sortie, ça vous fait du carpaccio de mouette ou du sashimi de goéland.
Non.
National Géographique, en direct. C'est très con, une mouette. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais croisé une mouette dans une librairie ou à la FNAC.
C'est vrai. C'est bien. Factuellement, c'est exact.
C'est bien la preuve.
Bon, on parle people avec les tensions autour de l'héritage de Jean-Loup Dabadie. Tension entre les enfants et la nouvelle épouse de l'auteur. Elle est accusée d'avoir détourné une partie du patrimoine.
Mon idole, hein, Jean-Loup Dabadie. Ils sont en train de nous faire une Hallyday chez les Dabadie. Jean-Loup, bah donc, t'es bourru, passe boire un cul. Voilà, ça me tient, c'est cadeau. Alors, c'est le gros avantage d'avoir des parents pauvres, on s'engueule moins au niveau de l'héritage. Voilà, ouais. Quand mon père va y aller, le plus tard possible, cette semaine, pas samedi, papa, j'ai ruqué, ça m'arrange pas. Donc, ça va aller très vite avec mon frère, hein, ça va faire... tu veux sa collection de Tiercé Magazine de 87 ? Non, ça va, prends-la. Tu prends le vieux par-dessus râpé et moi je prends le grippin qui marche pas. Ouais, ok, on fait comme ça. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Vous voyez que c'est pas compliqué de partager un empire dans le calme. David, Laura, Laetitia, prenez-en de la graine.
Ah ouais.
Restez classe.
J'ai eu un moment difficile. Roger Federer vient d'être éliminé au 14.
Ah, mais non,
non.
Ah ouais. Vous l'avez pas
fait. Oh putain.
Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit mieux.
J'avais prévenu. Nelson Manfort nous l'avait dit.
Bon, allez, avant de se quitter. Mais c'est un retour.
Est-ce qu'on continue l'émission?
Oui, on continue. The show must go on, mon ami. Soyons forts. Avant de se quitter, demain, c'est les Césars.
Ah, les César, oui Thomas, pendant cette cérémonie qui récompensera les 3 films sortis l'année dernière, on va rendre hommage aux disparus et nous aussi en jouant à Mouru pas mouru. Très beau jingle chanté par Monsieur Caranoni. Alors, je vous donne un nom de célébrité, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru l'année dernière. Claude Brasseur.
Mouru.
Oui.
Alexandre Brasseur.
Pas mouru.
Attention, un autre Brasseur, Maître Canter. Il est mouru. Richard Berry.
Pas mouru.
Ali Berry.
Pas mouru.
Blackberry.
C'est qui Ali?
Mouru. L'iPhone l'a tué. Jacques Secrétin.
Mouru.
Jacques Secrétin. Jean-Claude Seblaireau. C'est mon voisin. Maradona.
Mouru.
Le foie de Maradona.
Mouru.
Oui, mais il est mort en 2016. Donc, Michel Hidalgo.
Elle est mourue, hélas.
Mourue, Michel. Anne Hidalgo.
Non, pas mourue.
Les chances d'Anne Hidalgo à la présidentielle.
Mourue.
Le genou de Roger Federer.
Mourue.
Mon contrat à RTL.
Mourue. Voilà.
Grégory, le gagnant ou la gagnante?
Ce sont toutes les filles qui sont autour de la table.
Oh, magnifique. Tout le monde a gagné, c'est les 4
fans.
Magnifique. Je vous dis à mardi. Oh, il a envie de chialer.
Je suis pas dedans.
Il a plus rien à foutre.
Je vous l'écoute en replay.
C'est drôle ce soir ou pas?
Je ne sais pas, non. Moi, personne n'a écouté.
Bon, bonjour samedi soir chez Ruquier sur France 2.
Oui, avec plaisir.
Dans un instant, un témoignage très fort, celui de Laura Rapp, femme battue, femme qui a failli être tuée par son conjoint. Et si elle s'en est sortie, c'est grâce à un tweet, un calvaire qu'elle raconte pour aider les autres dans un livre. Ça s'appelle Tweet.
Thomas Soto, RTL Soir.
Son livre « Tweeter ou mourir » est sorti aujourd'hui aux éditions Michalon. Laura Rapp est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Laura Rapp.
Bonsoir.
Votre livre s'appelle « Tweeter ou mourir » et en sous-texte, il y a « Twitter est devenu mon seul recours pour être entendu. Je vous en supplie, sauvez-nous ». Alors vous allez nous raconter votre histoire qui est celle tragiquement banale finalement aujourd'hui d'une femme qui a été maltraitée, battue par son conjoint. Un homme que vous aviez rencontré en 2013 au travail. Comment ça se passe? Comment ça commence cette histoire?
Bah, au départ, ça commence comme un conte de fées. On emménage tout de suite ensemble. C'est comme le prince charmant. Et alors au départ, on s'en rend pas compte. C'est l'isolement. On sort qu'avec lui. On ne voit plus ses amis. Après, il y a des insultes sous le coup de l'alcool. Et après, il y a les premières bousculades, la première gifle au bout de 4 ou 5 mois. Et l'une de mes erreurs, ça a été d'avoir pardonné la première gifle.
Vous avez pardonné la première gifle. Vous avez dit finalement, ça peut arriver, c'est pas si grave.
Je me suis dit, c'est pas grave, c'est la faute de l'alcool. Et en fait, quand on pardonne la première gifle, c'est trop tard, on est déjà sous emprise. Hein.
Alors quand même, vous vous séparez en 2014.
Tout à fait.
Mais il revient, vous acceptez qu'il revienne quelques mois plus tard. Il vous dit, j'ai changé, il présente des excuses. Et c'est là que vous allez tomber enceinte et avoir votre fille. Sauf qu'au cinquième mois de grossesse, ça redégénère. Et vous réagissez toujours pas, en fait. Pourquoi ?
Bah parce que quand je me suis remis avec lui, j'ai cru à la seconde chance et je me suis dit aussi c'est une personne qui a eu une enfance difficile. Son père frappait sa mère, donc du coup je lui ai trouvé des excuses et je me suis dit moi je suis la bonne personne, je suis un petit peu comme une infirmière, je vais le sauver. Et c'est vrai que quand il y a les premiers coups qu'on repris au bout du cinquième mois de grossesse, j'étais en état de choc, de sidération, parce que je pensais que c'était même pas possible de frapper une femme enceinte. Mmh. J'étais sous le choc et j'avais dit à tout le monde qu'il avait changé, puisque mes proches ne comprenaient pas pourquoi j'étais revenue avec lui.
Donc vous cachiez à vos proches qu'il vous battait à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je me suis enfermée complètement dans une bulle. Et puis,
c'est
après,
une bulle de quoi? C'est une bulle de honte? C'est une bulle de...
De honte, parce que je ne mettais pas un terme, même à ce moment-là, de violence conjugale. Et je me suis dit, c'est le père de ma fille, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Et ensuite, il y a eu l'accouchement. Et là, après, ça s'est dégradé. C'était comme si je lui appartenais avec ma fille. On est une famille, on reste ensemble. Et c'est comme j'étais sa chose.
Et là, c'est vraiment l'enfer hein, que vous racontez dans le livre. Il essaye de vous étrangler chez sa mère. On est en mars 2017.
Tout à fait.
Et là encore, vous ne portez pas plainte. Vous avez employé un mot au début de cette interview, c'est l'emprise. C'est quoi l'emprise? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous ne dites pas « ça suffit, je suis en danger, ma fille est en danger ». Pourquoi vous ne portez pas plainte à ce moment-là?
Mais quand il y a eu cette intervention de police, donc les voisines étaient intervenues, ce qui m'a encore une fois sauvée, j'étais en état de choc, en état de sidération. Et c'est vrai que les policiers, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit tout de suite, faut déposer plainte, je souffrais, c'était tout de suite, et j'hésitais, et ils m'ont dit, bah écoutez, soit vous déposez plainte, vous partez avec nous tout de suite, soit la prochaine fois vous allez y passer. Et je sais pas, c'était trop virulent, et c'est la peur, la honte et la culpabilité.
Mais vous mettez le mot de violence conjugale sur ce que vous vivez ou vous dites non, c'est pas pareil, c'est pas ce que vivent les autres, c'est pas comme les histoires qu'on peut entendre à la radio, à la télé?
Bah, au départ, en fait, je me suis dit que si ça se trouve, c'était peut-être ça la vie de couple, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours ces hommes. Vous culpabilise toujours, il renverse la situation en disant c'est de ta faute, tu l'as cherché, les voisines ont appelé la police parce que tu as crié, c'est toi, et il retourne toujours la situation. Et après, bah, le lendemain, les jours passent, ça redevient comme avant. Et après, je mets ça dans un coin de mon cerveau et je repasse
avant,
à autre chose.
À chaque fois,
et à chaque fois, ça recommence, en fait, et c'est un cycle.
Il y a la nuit du 16 au 17 avril 2018, là, il tente de vous tuer carrément devant votre fille. Des voisins appellent la police, il est arrêté, il est mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre. Est-ce que vous vous dites que le cauchemar est terminé à ce moment-là?
Non, j'ai quand même failli mourir sous les yeux de ma fille. Donc, si vous voulez, ma vie, elle s'est arrêtée cette nuit-là, le 16 avril 2018. J'étais en état de choc parce que quand on voit la mort... On ne s'en remet pas vraiment, on apprend à vivre avec. Et aussi, quelque part, alors il est parti en détention provisoire, donc j'étais soulagée parce que j'étais protégée. Et d'un autre côté, c'est d'un coup, il y a votre monde qui s'effondre. Parce qu'au-delà de l'emprise et du contrôle, cet homme, c'était comme si c'était quelque part ma vie. C'est ça aussi qu'on ne veut pas voir. c'est difficile aussi à comprendre.
C'est un peu, et je mets des guillemets, mais c'est un peu le conte de fées qui s'effondre. Vous aviez un amoureux, vous faites un enfant, vous construisez un rêve, le rêve d'une vie de famille, et vous rendez compte qu'au bout du compte, il manque de vous tuer.
On passe du paradis à l'enfer, et c'est surtout que c'est mon conjoint. Enfin, j'ai jamais pensé une seule fois dans ma vie, je savais qu'il y avait des violences conjugales, mais il y a la honte en fait de dire à tout le monde, à vos collègues de travail, à vos amis, que votre conjoint vous frappe, vous humilie et qu'il a essayé de vous tuer.
Et alors, quelques mois plus tard, après cette détention provisoire, il est libéré. Un jour de Saint-Valentin, vous le racontez, le 14 février 2019, sans bracelet électronique. Et là, vous tweetez, trois mois plus tard, le 14 mai 2019, vous tweetez parce que finalement, vous dites « Il faut m'aider, j'ai peur, votre vie est compliquée, la justice ne bouge pas. » Et vous tweetez « À l'aide, rescapé d'une tentative d'assassinat en présence de ma fille de 2 ans, la justice me tourne le dos, arrêté et placé en détention provisoire depuis avril 2018. Mon tortionnaire a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. » Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous savez qu'il est en liberté ?
J'étais en état de choc puisque un mois et demi avant, il a fait une demande de mise en liberté qui avait été refusée même en appel. Donc pour moi, c'était impossible qu'il ressorte avant son procès d'assises. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a été relâché, je n'ai pas été prévenue. C'est-à-dire que les victimes ne sont même pas prévenues. Donc je l'ai appris le lendemain par mon avocate.
Il est venu vous voir ?
Il est rentré, en fait, le dimanche de Pâques, je suis tombée nez à nez avec lui, en allant en ma voiture, je partais au travail, et j'avais encore de la chance, mon père m'a raccompagnée ce jour-là à ma voiture, et ce qui s'est arrêté, j'ai hurlé, il y avait mon père, et après, il s'est enfui. Il a enfreint plusieurs fois son contrôle judiciaire, il était censé résider dans le Loiret, il n'y résidait pas. J'ai même engagé un détective privé, j'ai fait le travail de la juge d'instruction, et la juge d'instruction n'a jamais répondu à plus de 3 mois d'infraction à son contrôle judiciaire. J'ai tout fait, grand cabinet d'avocats, association, je me sentais abandonnée, j'avais peur. Et du coup, je me suis dit, j'avais rencontré une femme très engagée, Sophia, qui m'a dit, justement, je peux t'aider, on va essayer d'aller sur Twitter pour interpeller un politique, un journaliste. Et le 14 mai 2019, j'ai décidé de tweeter. J'ai pesé le pour et le contre, mais je me sentais abandonnée par la justice.
Et là, ça a fait un peu bouger les choses.
Tout à fait. Une semaine après, alors mon tweet a été, je m'y attendais pas. Il y a une grande chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Et au bout de 2 ou 3 heures, j'ai les premiers médias qui m'ont contactée. Et là, je me suis retrouvée à faire la une de nombreux médias. Et une semaine après, il a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions que mon avocate dénonçait.
Depuis, il a été condamné. Hein,
tout à fait.
Condamné à 8 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Vous êtes un peu apaisée. Comment vous allez aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais mieux parce qu'il a été condamné pour tentative de meurtre, même si je trouve que le quantum de la peine, il risquait la perpétuité, il a pris que 8 ans. Donc je trouve que c'est assez faible pour une tentative de meurtre et 5 années de violence conjugale, sachant qu'il avait déjà un casier judiciaire.
Et vous avez peur de sa sortie ?
J'ai peur de sa sortie, puisque aujourd'hui, j'ai appris il y a 2 mois qu'il a demandé une demande d'aménagement de peine. Donc je ne savais pas que c'était possible, je croyais qu'il fallait faire au moins la moitié de sa peine avant de demander une demande d'aménagement de peine. Donc aujourd'hui, comment on peut m'expliquer qu'un homme condamné pour tentative de meurtre en présence de sa fille, 1 an après être condamné pour tentative de meurtre, puisse faire une demande d'aménagement de peine ? Donc l'audience doit avoir lieu dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Donc peut-être que ce sera refusé, mais je trouve ça inacceptable, ces remises de peine automatiques.
Et votre fille, Alice, comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle a quoi ? Elle a 5 ans, c'est ça ?
Elle a 5 ans et demi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille, elle a été reconnue victime et j'ai obtenu la déchéance des droits parentaux, ce qui est rare. Ça, c'était une victoire. Je me suis battue pour la faire reconnaître parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de magistrats qui pensent qu'un homme violent peut être un bon père. Or, un homme violent ne sera jamais un bon père. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille, elle a été massacrée psychologiquement. Elle a été diagnostiquée avec un syndrome post-traumatique très sévère, un retard de langage de plus d'un an, des cauchemars, énormément de mal à dormir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle va mieux puisqu'elle est dans un environnement serein, la justice en me battant du coup l'a protégée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment important de protéger ces enfants qui sont victimes de violences conjugales, car un enfant qui est témoin des violences conjugales est un enfant qui est victime. Et aujourd'hui, je le vois autour de moi, toutes les victimes qui me demandent à l'aide, la plupart des enfants ne sont pas protégés.
Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez votre histoire, mais que c'est un peu un miroir pour toutes celles qui vivent le même genre de cauchemar, qui nous écoutent peut-être. Merci d'être venu nous parler de ce livre « Tweeter ou mourir » publié chez Michalon. On rappelle aussi le numéro ouvert aux victimes de violences conjugales, anonyme et gratuit. Pas facile à appeler, c'est vrai, mais les voisins peuvent le faire, les proches peuvent le faire. Ce numéro, c'est le 3919. Merci à vous, Laura Rapp.
Merci.
Dans un instant, la culture de l'actu. Julia Molcou.
RTL Soir.
Thomas Soto.
RTL Soir.
La culture de l'actu, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors Roger Federer... Roger Federer... J'arrive pas à le dire.
Bon, ok, il jouait... À Doha. Voilà, bon, il a perdu.
C'est ça.
Ça va aller.
Au tournoi de Doha, c'est pas grave, ça va prendre du temps, il va revenir. Voilà, l'occasion pour vous de nous parler du tennis dans la culture.
Je suis fin prêt pour mes deux sets. Je mets toujours deux paires de chaussettes.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Voilà devenu Noah. Jimmy Connors ou Panatta.
Alors, avant les Noah, les Federer et les Jimmy Connors que chante Philippe Laville, le tennis était d'abord un sport féminin, figurez-vous, exercé par la grande bourgeoisie. Et leurs tenues impeccablement blanches intéressèrent la mode au point que Jean Patou dessina spécialement en 1921 pour Suzanne Lenglen une mini-jupe lissée, un chandail sans manches et un serre-tête. On était border érotique. Et c'est d'ailleurs cette tenue qui valut à la grande championne le nom de Suzanne la Divine. Ça méritait bien une chanson.
Oh, Suzanne, Suzanne, il y en a que pour toi. Oh, Suzanne, Suzanne, partout l'on te voit.
C'est vraiment pour Suzanne Lenglen, cette
chanson ? Oui, bah bien sûr, je ne vous aurais pas flouté. C'était Saint-Garnier. Et la fascination pour le tennis dans la littérature réside justement dans cette érotisation du corps.
Bon, au fond, le tennis féminin est une série érotique télé qui passe le samedi et le dimanche après-midi. On peut même assister au tournage avec sa femme et ses enfants.
Écrivez donc Patrick Besson en 2010 dans Le Plateau Télé. Allez, passons aux joueurs masculins maintenant. L'idéal d'éducation qu'évoque le tennis, le goût de l'effort et l'élégance de leur tenue, qui fut longtemps le pantalon blanc et la chemise coton manche courte, vont prendre une autre place dans la culture. Le tennisman n'est pas un sportif comme un autre. Il est le représentant du fair play et le gentleman. Comme le chantait Alain Chamfort en 77.
Tennisman, tennisman, c'est un plaisir.
Vous avez trouvé des trucs entre Philippe Laville et le Alain Chamfort, là
c'est... Je me suis régalée. Ah ouais. Alors, fair play et élégant, certes, mais le tennis, c'est aussi le duel, la rencontre, ces balles qui fusent de l'un à l'autre avec le plus de puissance possible. Imaginez la métaphore du désir à travers un match un peu tendu, bah, comme l'a fait Woody Allen dans Match Point.
Il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet. Avec un peu de chance, elle passe. Et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas.
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez un jeu très agressif.
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez des lèvres très lascives.
Et puis bien sûr, il y a les parties de tennis cultes du cinéma français cette fois. Étienne, Daniel, Bouly et ce pauvre Simon, pris en étau entre ses amis qui lui demandent, je cite, de ne pas lober cette semaine, et sa mère qui débarque sur le court en toute discrétion.
Simon ! Vous dérangez pas pour moi les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouly. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon alors. Simon,
ici. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu as sorti les fourrures ?
Voilà, les quatre copains d'un éléphant, ça trompe énormément, se retrouveront ensuite dans Nous irons tous au paradis. Et là encore, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux et Guy Bedos s'affronteront en double sur un court proche d'un aéroport. Rencontre qui va vite dégénérer, un peu comme dans la partie de tennis que chantait cette fois Michel Legrand.
Je bombe le torse, mais toute ma force, j'envoie la balle avec rage. J'entends crier faute, alors je sursaute, c'est une erreur d'arbitrage. Voilà bien
c'est
ma chance,
génial,
ma puissance.
Adorez cette chanson.
Génial.
Ma seconde balle, elle ne se trimballe qu'à la vitesse d'un Suisse.
Cependant... Oh je remeurs une troisième fois ce soir. Évidemment, quand on a prévu ce thème pour la culture de l'actu, on ne pensait pas qu'on vivrait ce drame.
Toute vision s'efface.
Il va revenir de semaine en semaine, t'en fais pas. C'est Arnaud Butch qui vient de m'envoyer ça. Merci Arnaud. On va y arriver. Allez.